La vertu, par le vénérable Sasana, le 28 avril 2002.
Namo Tassa, hommage, Bhagavato, au Bhagavat, c'est-à-dire le victorieux, le glorieux, Arahanto, c'est-à-dire celui qui est digne de vénération, digne de respect, digne de recevoir les offrandes. Sama Sambuddho, c'est-à-dire celui qui est arrivé à l'éveil Buddho par ses propres moyens, Sam, qui n'a bénéficié de l'aide de personne pour arriver à l'éveil. Il est le seul et unique être connu dans ce cas, dans notre univers. Nous allons maintenant prendre les 5 préceptes, puisque pour entendre la parole de Bouddha, il est important d'avoir développé une attitude d'esprit pur, clair. Donc, prendre les 5 préceptes, pour ne serait-ce que pour la durée de cet enseignement, ou pour une durée qu'on peut déterminer comme on veut, hein, ça n'a pas de grande importance. Les 5 préceptes, donc, ce n'est pas nécessaire de faire la récitation pali, pour deux raisons. D'abord, je ne la connais pas. Et puis la deuxième, c'est que nous ne comprenons pas le pali ici, personne ne comprend le pali. Donc, le plus simple, c'est plutôt que de faire une récitation comme ça sans savoir, c'est de simplement le faire effectivement et de réfléchir à ce qu'on fait. Prendre les préceptes, ça signifie se dire que à partir de maintenant, on va s'abstenir de faire certaines choses. Ce n'est pas un vœu que l'on prend, on ne jure pas, on ne s'engage pas à maintenir un lien avec quelque chose. On se dit simplement que pour avoir un esprit clair, pour être clair dans son corps, être clair dans sa tête, pour avoir une vie vertueuse et saine, on s'abstient de faire ces 5 choses, et ça tiendra le temps que ça tiendra, et si on venait à ne pas respecter un de ces 5 préceptes, ça serait pas péché, ça serait pas mauvais karma, ça serait pas mauvaise réincarnation, hein. Simplement, on serait quitte pour reprendre les préceptes, c'est-à-dire finalement faire plus attention la prochaine fois. Donc, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère et s'abstenir de boissons intoxicantes. Ne pas tuer, ne pas commettre de violence physique à l'égard des êtres, à l'égard de tous les êtres, c'est possible, est une manière de nous garantir d'être quelqu'un dans la société humaine, d'inoffensif. Quelqu'un qui n'est pas dangereux, quelqu'un dont on n'a pas de raison de craindre l'agressivité ou la haine. Même si on ressent de l'agressivité ou de la haine, elle ne s'exprimera pas dans les actes, parce que on a pris ce précepte, on s'est engagé, à titre personnel, à s'abstenir de concrétiser un acte de violence. Ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui n'est pas dû. Par exemple, ne pas s'attribuer, ne pas s'approprier un bien qui ne nous a pas été donné ou qui n'a pas été acheté conformément à la loi. Parce que ceux qui volent sont des parasites dans la société, ce sont des gens nuisibles, ce sont des gens qui font du mal, parce que quand on nous a volé notre propriété, on est bien embêté, parfois on est très peiné si cette propriété avait de l'importance pour nous. Donc ceux qui volent sont des gens particulièrement nuisibles et parasites. Et lutter contre le vol ou punir sévèrement les voleurs est une nécessité dans toute société qui se veut civilisée. Et nous sommes des gens civilisés parce que nous sommes sur la voie de l'éveil et nous commençons à appliquer par nous-mêmes ce que nous estimons être des lois saines et nécessaires pour la société humaine en nous abstenant de commettre le vol. Si dans un village tout le monde s'abstient de commettre le vol, alors nous pourrons laisser toutes les portes et les fenêtres ouvertes, nous pourrons laisser les voitures ouvertes, nous ne courons aucun risque. Nous abstenir de dire ce qui n'est pas l'exacte vérité des faits. S'abstenir de dire des choses qui ne sont pas exactes, c'est-à-dire s'abstenir de mentir. C'est de loin, de très loin, le plus difficile des 5 préceptes à respecter, le plus difficile de tous les préceptes à respecter. Pourquoi ? Parce qu'il est sous-jacent dans tous les autres. Parce que si on se dit « je devais à tout prix m'abstenir de dire des choses qui ne sont pas exactes et je vais m'encourager à dire ce qui est l'exacte vérité », on s'interdit en fait pratiquement de commettre le vol, de commettre le crime Pourquoi ? Parce que si on commet un délit, on va probablement être amené à en parler, notamment si on se fait attraper par l'autorité. Et si on s'est engagé à ne pas mentir, on se retrouvera coincé. Ne serait-ce que pour éviter de se retrouver dans une position où on serait amené à mentir, eh bien, s'abstenir de voler, ça nous aide à nous abstenir de commettre les autres imperfections, notamment le vol, le crime, etc. C'est de loin la chose la plus difficile à respecter, s'abstenir de ne pas dire ce qui est l'exacte vérité. S'abstenir de commettre l'adultère, l'inceste, c'est-à-dire en fait de développer des rapports sexuels avec un partenaire qui ne soit pas, ou une partenaire qui ne soit pas idoine. Parce que nous savons tous que dans notre société moderne, l'adultère génère une quantité considérable de souffrance, de peine. Et en plus, toute personne qui pratique l'adultère est obligée de mentir. Donc quand on s'abstient, quand on choisit de s'abstenir de mentir, on est déjà pratiquement dans l'incapacité de commettre l'adultère. L'adultère est source d'un nombre considérable de problèmes dans la société, qui contribue largement à l'expansion de maladies très dangereuses, et surtout, il contribue à l'expansion de la maladie la plus dangereuse de toutes, qui est la pourriture mentale, en fait, des êtres qui se jouent la comédie les uns les autres, qui osent serrer la main à quelqu'un dont ils trompent l'épouse ou l'époux, etc., etc. Toute cette médiocre comédie humaine dans laquelle nous nous entretenons, en sachant que, par derrière, bien sûr, sans que personne ne le sache, il y a tout un tas de trafic, finalement, de relations sexuelles. C'est un mal absolument colossal dans le monde, qu'il est nécessaire d'essayer d'éradiquer. Et la seule manière d'arriver à éradiquer cette pourriture, c'est de commencer déjà soi-même par s'en abstenir, tout simplement. Aucune pratique d'adultère, aucune pratique d'inceste. Ensuite, il faut tenter de s'abstenir d'absorber des boissons fermentées qui contiennent la drogue qui est de loin la drogue la plus dangereuse, la plus toxique, la plus nocive, la plus nuisible de toutes celles que l'on connaisse, qui est l'alcool. L'alcool est une drogue qui nous amène rapidement à des consciences que nous ne pouvons absolument plus du tout maîtriser. Elle amène les gens à devenir nerveux, voire colériques, voire violents. Énormément de violences intraconjugales, de violences intrafamiliales sont commises sous l'effet de l'alcool. Un très grand nombre d'accidents de la circulation aussi sont commis sous l'effet de l'alcool. L'alcool est une véritable peste dans le monde, dans l'humanité, qui est responsable d'un nombre incalculable de morts, de décès qui auraient pu être évités, et de souffrances abominables que de très nombreuses personnes expérimente. La personne qui boit est déjà une personne qui souffre intérieurement, sans parler de son entourage. Donc, voler, mentir, tuer, adultère et boissons enivrantes, hein, boissons fermentées, vous donnez le terme boissons fermentées. Donc, sur la base de ces préceptes, le fait d'avoir entendu des explications sur ces préceptes, chacun d'entre nous s'est dit, bon, je vais maintenant m'abstenir, je vais maintenant faire l'effort de respecter chacun de ces cinq préceptes. Donc maintenant, nous avons pris les cinq préceptes qui constituent la base de toute vie civilisée, de toute vie organisée, et qui constituent la base de notre chemin vers la purification du mental, vers l'éveil. Au début, nous devons commencer par faire ce travail, qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire, sans lequel il est hors de question d'espérer aller plus loin. Paradoxalement, c'est assez difficile de respecter ces cinq préceptes, et c'est d'autant plus paradoxal que pour les respecter, il n'y a absolument rien à faire. Rien à faire. Rien. Il n'y a pas une pensée particulière, il n'y a pas une récitation particulière, il n'y a pas un geste particulier. Car respecter ces préceptes ne consiste pas à faire quelque chose, mais tout au contraire, ça consiste à s'abstenir de faire certaines choses. Et nous nous rendons compte que s'abstenir de faire quelque chose peut être infiniment plus difficile que de s'encourager à faire quelque chose. S'abstenir de mentir, c'est simplement ne plus produire de paroles qui ne correspondent pas à la vérité. Facile à dire, mais très difficile à faire. S'abstenir de tuer, c'est déjà plus facile, parce que tuer, en particulier tuer les humains, n'est pas une chose que nous avons l'habitude de faire tous les jours. Mais ça peut, dans certains cas, en particulier lorsque l'on en vient aux animaux, lorsque l'on en vient aux insectes, ça peut effectivement être délicat. Pourtant, il n'y a rien à faire. Ne pas tuer un insecte, il n'y a rien à faire pour ne pas tuer un insecte. C'est incroyable quand même. Et c'est très difficile, surtout quand il est en train de vous piquer. Et c'est valable pour tous les préceptes. Pour ne pas commettre l'adultère, c'est simple, il suffit tout simplement de ne pas le faire. Et pourtant, c'est parfois très difficile, parce que la tentation est difficile à gérer. Hein. Le fait de nous entretenir comme ça, de nous entraîner, à ces cinq abstentions, a un effet extraordinairement curatif. On le comprend dans la société humaine, ça se comprend tout de suite. Imaginez simplement une vallée dans un pays, dans une région où vivent des humains, dans des villages, où il n'y a pas de meurtre, pas de crime, pas de mensonge, pas d'adultère, pas d'alcoolisme, d'alcoolémie. C'est extraordinaire. C'est pratiquement miraculeux, en fait. C'est extraordinaire. C'est un garde-fou. C'est une protection contre la nuisance, contre la misère, contre la souffrance, contre 90% des peines et des souffrances que les humains peuvent expérimenter. Il y en a d'autres. La souffrance d'avoir perdu un être qui nous est cher ne dépend pas de notre respect des préceptes, c'est clair. Mais le fait de respecter ces cinq préceptes, surtout si nous ne sommes pas les seuls, amène instantanément l'instauration d'une harmonie. Respecter les préceptes a pour objet de nous permettre de développer ce qu'on appelle Sila, qui est la vertu. Un être vertueux est un être qui n'est pas agressif. C'est un être qui est doux, et qui va instantanément susciter dans son entourage du respect, de la considération, de l'admiration, par son honnêteté, par son intégrité, par son absence de violence. C'est un point de départ. Si nous n'arrivons pas à franchir ce cap, il est inutile de perdre notre temps avec les exercices de méditation, avec toutes sortes de pratiques ou quoi que ce soit. C'est le point de départ. C'est seulement une fois que nous avons réussi à nous établir dans la vertu, que nous pouvons envisager alors de passer à l'étape suivante. Bouddha prend l'exemple et il dit c'est comme pour se rendre d'une ville à une autre. Disons par exemple de Paris à Marseille. Nous allons prendre un carrosse avec des chevaux, un attelage, et nous allons nous rendre à Dijon. À Dijon, on va changer l'attelage et on va continuer pour descendre jusqu'à Lyon. Puis de Lyon, on va changer l'attelage à nouveau et on va ainsi continuer pour descendre jusqu'à Mâcon, ainsi de suite. Et il dit, de la même manière qu'il est impossible de court-circuiter une ville, il est impossible d'arriver à Mâcon sans être passé au préalable par Dijon et par Lyon. De la même manière, il est exclu d'arriver aux étapes supérieures de la purification du mental sans être passé au préalable par les étapes initiales, par la grande étape initiale, qui est loin d'être la plus facile, l'établissement dans la vertu. Car, comme vous avez pu l'entendre, ici, il n'y a aucune prière à adresser à qui que ce soit, aucun exercice de méditation, pas une seule minute à passer sur un coussin. C'est à chaque moment dans la journée, dans nos relations avec nos amis, avec notre famille, sur notre lieu de travail, que nous essayons de garder la conscience claire et propre. Il n'y a aucune méditation pour cela. Des réflexions, oui. Cela peut nous aider de réfléchir aux conséquences néfastes du mensonge, de l'adultère, du vol. Réfléchir, oui. Discuter entre nous, certainement, sont des choses qui peuvent nous aider. Mais il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de pratique de la vertu. Puisque la vertu, c'est s'abstenir de pratiquer quelque chose, s'abstenir de faire des choses. Et pour s'abstenir de faire des choses, par définition, il n'y a rien de précis à faire. C'est un état de vigilance, c'est un état de conscience. Conscience dans le sens, bien sûr, de conscience morale. C'est loin d'être facile. Et c'est très très négligé de tous ceux qui croient qu'ils vont pouvoir se livrer à des exercices de méditation pour expérimenter l'innommable, expérimenter le transcendant, expérimenter la joie éternelle. C'est inconcevable. d'arriver à une joie sublime après notre mort, si nous ne sommes pas arrivés déjà de notre vivant à nous installer dans une clarté, dans un bien-être, dans une lucidité, qui sont véritablement source de bonheur. C'est déjà l'acquisition d'un certain bonheur. Ce point est absolument vital. Il est nécessaire, et on aurait tort d'imaginer un seul instant que la méditation peut nous permettre d'effacer, de purifier, dans le sens de gommer, dans le sens de effacer des actes négatifs que nous aurions pu commettre dans le passé. C'est inconcevable. Donc, pour nous éviter de nous trouver dans la situation où nous aurions à gérer des choses malsaines que nous avons accomplies dans le passé, le plus simple est de nous abstenir dès maintenant d'en commettre dans le présent, pour que dans le futur, nous nous trouvions dans la situation de quelqu'un qui puisse dire « Cela fait maintenant quelques mois, cela fait maintenant quelques années que je me suis particulièrement bien comporté et que j'ai évité de commettre des actes malsains. Je me sens sain. » Et en plus, on acquiert une dimension totalement nouvelle dans la vie qui est la possibilité de pouvoir regarder les gens droit dans les yeux. Parce qu'on n'a rien à se reprocher. On est totalement irréprochable. Même si on nous accuse à tort, même si on nous met en prison à tort, on reste libre parce qu'on sait qu'on était pur, qu'on était libre des reproches qui nous sont faits. Ainsi, une fois, dans des temps immémoriaux, il y avait un roi qui cherchait à donner à sa fille, bien sûr, un époux. Il a fait demander les plus vaillants, les plus courageux, les plus intelligents gentlemen de sa cité. Et il leur a dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez me prouver votre habileté et votre intelligence en me rapportant des bijoux somptueux que vous aurez volés, en ayant l'assurance que personne ne vous ait vu. Si vous êtes capable de m'apporter des bijoux avec l'absolue certitude que personne ne vous a vu, alors vous aurez gagné sans aucun problème la main de ma fille. Dont l'histoire raconte, bien sûr, qu'elle était absolument sublime, forcément. À ce moment-là, les trois ou quatre personnages partent. Ils reviennent à la date prévue par le roi, et le roi demande, chacun raconte ses exploits, voilà, regardez Seigneur, ces bijoux en or incrustés de diamants absolument somptueux que j'ai rapportés. Et personne ne vous a vu, personne, Seigneur. Vous n'entendrez jamais parler de ça. Chacun raconte ainsi ses exploits. Et lorsqu'il arrive au dernier, il lui dit, et toi ? Et il dit, Seigneur, je n'ai rien apporté. Alors les autres, probablement, ont dû sourire narquoisement quand ils ont vu ça. Et le Seigneur lui demande de s'expliquer. Il a dit, Seigneur, où que je fusse, à chaque instant, je ne me suis jamais trouvé dans la position où personne ne pouvait me voir. À ce moment-là, le roi a dit à cette personne-là, vous avez gagné la main de ma fille. Pourquoi ? Parce que, où que l'on soit, il y a toujours une personne qui est témoin de ce que nous faisons. Quoi qu'en disent les autres, quelles que soient les rumeurs, quelles que soient les opinions, quels que soient les verdicts des jurys, il y a une personne dans l'univers qui sait toujours, toujours, l'exacte vérité des faits, ce que véritablement nous avons fait. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Et cet homme-là était dans la position où il pouvait dire à ce moment-là au roi, je suis resté intègre. C'est très important de pouvoir toujours être dans cette position, n'avoir rien à se reprocher et être toujours dans le cas où on sait, dans le fond de nous-mêmes. Inutile de vous dire que des personnes qui ont atteint ce degré d'honnêteté, ce degré de franchise, sont plutôt assez rares dans le monde. Hein. Mais là-dessus, nous n'avons d'explication à rendre à personne. Nous n'avons pas à nous justifier, nous n'avons pas à nous expliquer, puisque nous savons justement. Ceux qui parlent, ceux qui se justifient, ceux qui s'expliquent, sont ceux qui ne savent pas. Il y a un deuxième obstacle de taille qui nous empêche d'être heureux, d'être bien dans notre vie. Celui-ci, c'est le plus gros. Hein, je prends l'image d'un énorme mammouth dans un couloir, par exemple. On ne peut pas passer parce qu'il y a un animal qui obstrue toute la place. Mais si jamais on arrive à abattre cet obstacle, qui est l'absence de vertu, nous découvrons que derrière, il y a un éléphant. Un peu plus petit, mais c'est quand même encore une grande masse. Et puis derrière cet éléphant, il y a encore un animal. Une fois que nous arriverons à abattre l'éléphant, il y a encore un animal derrière. Un bœuf plus petit, mais c'est encore un gros morceau à déplacer. Le deuxième obstacle à franchir, en fait il y en a trois au total. Deuxième obstacle à franchir constitue le manque de concentration, le manque d'attention qui fait que nous nous laissons facilement entraîner par les objets des désirs et que nous nous laissons facilement entraîner par la colère et l'aversion. Ça aussi, ça constitue un obstacle. Et il est important de nous apprendre à maîtriser, si possible, cela. En fait, le fait de nous entraîner à nous installer dans la vertu va nous permettre de contrôler la colère, l'agressivité et la violence, puisque normalement, on ne devrait plus se laisser aller à cela. Mais pas le désir. Le désir qui nous tiraille, qui nous amène tout le temps à faire des choses, qui nous amène tout le temps à chercher à acquérir des biens, de la propriété, à chercher à nous faire plaisir, justement. Pour nous aider à gérer cette situation, dont il est très important de dire qu'elle n'est pas... Le désir n'est pas le péché. Le désir n'est pas le mauvais karma, les mauvaises tendances qu'il faut... contre lesquels il faut lutter. Il n'y a pas d'exercice particulier à faire pour nous empêcher d'avoir des désirs. Le désir est une chose qui est totalement naturelle. Le désir, c'est ce qui met en mouvement les êtres, exactement de la même manière que la gravité est ce qui met en mouvement les choses. Par exemple, lorsque nous lâchons un objet, il va être attiré par le sol et va chuter. De la même manière, lorsque l'on lâche un humain dans la jungle urbaine, il va lui aussi être attiré par de nombreux objets, en fait. Et ça va le mettre en mouvement. Si nous regardons bien, à peu près tout ce que nous faisons dans la journée, nous sommes tout le temps en mouvement pour aller vers un but. Ou alors pour fuir quelque chose. Nous sommes tout le temps attirés par des choses, et nous voulons à tout prix nous approprier ces choses. Nous voulons à tout prix être mis en contact charnel, intellectuel, mental, avec des objets qui sont censés nous procurer du plaisir. Si nous n'arrivons pas à un minimum de maîtrise de ce problème, nous n'arrivons pas à avancer et à atteindre la troisième étape. Cela est possible, il n'y a qu'une seule et unique manière d'y arriver. Nous pouvons bien sûr réfléchir sur les méfaits, sur les conséquences néfastes et douloureuses de se laisser entraîner par les objets de désir, mais cela ne suffit pas. Nous pouvons en discuter entre amis, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Là, par contre, il y a quelque chose à faire. Là, il y a un exercice à faire, une pratique à entreprendre. Là, c'est du concret. Remarquez que le respect des cinq préceptes est aussi quelque chose de très concret, mais avec une différence. Dans un premier temps, il faut essayer de s'abstenir, alors que dans un deuxième temps, il faut au contraire effectuer une pratique. Cette pratique est ce qu'on appelle la pratique de la méditation ou du samadhi, l'établissement de la concentration, de l'attention, de la présence d'esprit. Si nous arrivons à développer un esprit plus concentré, à ce moment-là, nous allons avoir naturellement une attirance beaucoup moins grande pour nos objets. Et nous allons développer une qualité que nous ne connaissions pas jusqu'à présent, qui est une qualité de compassion, une qualité de bonté, de bienveillance à l'égard des êtres. Parce que, voyez-vous, la compassion, qui est une chose dont on parle beaucoup dans de nombreuses religions, n'est pas un truc qui se pratique, c'est pas une méditation qui se fabrique. Il n'y a pas de divinité de la compassion. Et Dieu, dans sa miséricorde, quand on voit la misère du monde qu'il est censé avoir créé pour ceux qui croient qu'il en est le créateur. Comme disait si bien Bouddha une fois, mais alors, si votre monde a été créé par Dieu, c'est qu'il est vicieux, votre Dieu, parce que regardez la souffrance qu'il y a instaurée. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à un Dieu, à un Dieu, à une divinité, à une pratique, à un exercice. Parce que ce serait là fabriquer de manière totalement artificielle une chose dont nous éprouverions le besoin d'une fabrication, parce que dans le fond, nous n'en avons pas tant que ça. J'ai constaté une chose en ce qui concerne la compassion, dont on parle beaucoup dans des nombreux livres bouddhistes, chrétiens et autres, que la compassion, c'est que ceux qui en parlent sont visiblement atteints du syndrome de la confiture. C'est-à-dire que moins on en a, et plus on l'étale. En fait, si on éprouve le besoin de tout pratiquer, tous ces exercices de méditation sur la compassion, c'est peut-être un aveu et un constat qu'on ne doit pas en avoir beaucoup. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que Bouddha, à l'origine, envisage la chose. Pour lui, la compassion est une attitude d'esprit, c'est une émotion, c'est un sentiment sain, bénéfique, extrêmement bénéfique, pour soi-même, pour son entourage, qui se développe lorsque l'on a bien entendu le souhait, la volonté, mais qui se développe surtout lorsque l'on s'entraîne aux exercices de méditation. Méditer, c'est se concentrer. Par exemple, se concentrer sur la respiration, se concentrer sur un objet dont la qualité n'a pas une grande importance. L'idée, c'est de se concentrer et naturellement, lorsque l'on pratique la méditation, au bout d'un certain temps, l'esprit va être plus calme, il va être plus détendu, il va être plus ouvert, plus attentif, plus attentionné. Et en fait, c'est là que la compassion s'installe et qu'elle se glisse. Il y a ceux qui méditent sur une soi-disant divinité de la compassion, qui sont en train de se fabriquer un film, ils sont en train de se fabriquer une animation, ils sont en train de faire joujou sur l'Internet, en fait, sur l'Internet de la spiritualité mondiale. Et puis il y a ceux qui font comme Bouddha disait de faire. C'est-à-dire, par exemple, nous essayons de nous souvenir d'un moment dans notre vie où nous avons éprouvé un profond sentiment de pitié, un profond sentiment de tristesse, lorsque nous avons été témoins d'une souffrance, souffrance d'un animal, souffrance d'un humain, souffrance d'un enfant. Nous avons éprouvé ce sentiment. Ce sentiment-là est un sentiment sain, c'est un sentiment bénéfique, parce que si on éprouve ce sentiment, on ne va pas pouvoir ajouter de la souffrance à celui qui en a. En règle générale, quand on éprouve ce sentiment, on va au contraire essayer de faire quelque chose pour aider celui ou celle qui souffre. La compassion, c'est le point de départ. Si nous arrivons à nous rappeler une telle image, un tel moment, nous allons avoir ce sentiment qui va apparaître. Et la compassion est là. La compassion n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans les manuels, elle n'est pas dans les théories. La compassion, elle ne peut être qu'à un seul et unique endroit. Quand elle s'y trouve, c'est en chacun d'entre nous. À partir de ce moment-là, il y a effectivement un exercice que nous pouvons entreprendre pour la cultiver, pour la nourrir, pour que la prochaine fois, elle apparaisse. Pour qu'elle apparaisse au lieu de l'indifférence. Cet exercice, c'est la méditation. Et une méditation enseignée par Bouddha est d'une efficacité absolument remarquable. Mais c'est tellement simple que ça reste assez difficile à comprendre et que ça reste difficile à mettre en œuvre. Lorsque nous avons ce sentiment de pitié, de tristesse qui apparaît en nous, nous portons notre attention dessus. Nous l'observons. Et nous essayons de nous en imprégner totalement. Nous nous concentrons dessus, un peu comme si nous voulions essayer de le maintenir. Ici, il ne s'agit pas d'idéaliser, d'imaginer, de rêver que l'on développe la concentration parce qu'on a soufflé dans une trompette ou agité une clochette, réciter une prière. Il s'agit au contraire de détourner son attention de ses objets gadgets, de ses pensées, de ses lubies, et de porter son attention sur une chose qui est bien réelle, qui est en train de se passer, qui est un sentiment profond de tristesse, de compassion que nous avons revécu par une image dont nous nous sommes souvenus. Cette pratique peut faire à elle seule l'objet d'une retraite intensive et quotidienne. Cette pratique amène à la conscience divine, elle amène à l'expérience de la divinité. Vous voyez, la démarche dans le Theravada est contraire à celle des autres. Il prie Dieu, il prie la divinité, il médite sur la divinité, sur des concepts de la divinité, en vue d'essayer de vivre les qualités qu'elle est censée avoir. Avec Bouddha, c'est le contraire. Avec Bouddha, on observe et on cultive ce qui est là. Et par cet exercice, on atteint à ce moment-là la conscience divine. On fait l'expérience de la divinité. Brahma Vihara, Karuna Brahma Vihara, la demeure divine de la compassion. Mais de nos jours, dans notre monde moderne, dans notre société moderne, il y a vraiment un nombre très limité de personnes qui peuvent espérer atteindre une telle conscience. Par contre, tout le monde peut s'entraîner à cultiver la compassion, la bonté, la bienveillance. Et tout le monde peut effectivement se livrer aux exercices de méditation. Et si on ne se sent pas d'affinité à essayer justement de ressentir ce sentiment de pitié, on peut choisir un autre objet. Parce que ce qu'il y a de particulier dans le mental, c'est qu'il arrivera à l'expérience de la compassion lorsque il arrivera à l'expérience de la concentration. Donc nous pouvons choisir un autre objet de concentration. Si nous préférons la lumière, le ciel, l'espace. Bouddha, au total, suggère 40 exercices, 40 supports de méditation qui peuvent être utilisés. On peut même choisir une réflexion. On peut réfléchir, par exemple, sur les qualités de Bouddha, si on les connaît, sur les qualités de son enseignement, si on le connaît, sur les qualités de la communauté des moines, qui sont censés le vivre, l'incarner et le véhiculer, si on les connaît, j'allais dire plutôt, si on les a remarqués. Développer la concentration, c'est nous rendre non agressifs, bien sûr, mais ça, la vertu est déjà censée nous aider à cela. C'est nous permettre de contrôler et de maîtriser les désirs. C'est là la fonction principale du développement de la concentration. Ça va ensemble. C'est indissociable. Cela nous amène à ce moment-là à une certaine expérience d'équanimité. L'équanimité qui est l'indifférence. Dans ce cas, c'est l'indifférenciation. C'est une propriété mentale qu'on appelle Tatramajata, qui est l'indifférenciation quant aux sensations pénibles ou aux sensations plaisantes. L'équanimité, c'est ce qui vient après avoir, bien entendu, beaucoup pratiqué la méditation. Ça, c'est la deuxième étape, c'est l'éléphant. Une fois que nous avons développé la concentration, que nous avons la capacité de rester totalement absorbés sur un seul point, pendant ne serait-ce que quelques instants, notre mental est propre, on appelle ça la pureté du mental, citta visuddhi. En nous étant engagés dans les préceptes de vertu, nous sommes arrivés à la pureté de la conduite, citta visuddhi. S'il n'y a pas de citta visuddhi, il ne peut pas y avoir de citta visuddhi. S'il n'y a pas de pureté de la conduite, il ne peut pas y avoir de pureté du mental sur la concentration. C'est inconcevable. On peut arriver à développer la concentration, mais ce sera alors la concentration associée à un rite, ou la concentration associée à un projet maléfique. Ensuite, il nous faut franchir la troisième étape, qui est nécessaire pour atteindre l'éveil. L'éveil, ça n'est pas la divinité, l'éveil n'est pas l'atteinte de la conscience divine, en tout cas pas selon Bouddha. Selon lui, l'éveil est une expérience tout à fait différente, qui sort complètement du cadre de la divinité, qui sort du cadre de toute chose d'ailleurs. Pour atteindre l'éveil, il faut développer l'intelligence. Il faut développer la vision directe dans la réalité, voir directement les choses comme elles sont. Ça, c'est très subtil, très fin. Très, très subtil et très fin. S'il n'y a pas un esprit concentré, un esprit enraciné dans la vertu d'une part, puis dans la concentration, dans l'attention, dans la compassion d'autre part, c'est inconcevable d'arriver à développer cette troisième étape, qui est voir directement dans la réalité. Le troisième obstacle, le bœuf, c'est l'obstacle des vues. Car si nous nous sommes établis dans la vertu, nous avons combattu, nous avons géré le problème de l'agressivité, le problème de la violence. Si nous avons développé la concentration, nous avons géré la question du désir. Mais reste encore dans cela le problème des vues. Dans de nombreuses religions, dans de nombreuses traditions spirituelles, certaines personnes sont devenues très vertueuses, ont développé des attitudes très vertueuses à l'égard des autres et ont développé des états de concentration intenses qui les ont amenées à des expériences mystiques authentiques. On ne peut pas en douter. Mais il reste encore quelque chose. Ce quelque chose, ce sont les vues. C'est très pernicieux, les vues. C'est très pernicieux et c'est très douloureux. Les vues, c'est essentiellement la plus importante, la plus classique, la plus grosse. C'est être intimement convaincu qu'il y a un être qui vit, qui habite notre corps ou notre mental. Alors, il y a ceux qui croient que cet être, c'est moi. C'est moi, c'est Pierre, Paul, c'est Aïcha. Et puis, il y a ceux qui disent non. C'est pas moi, c'est une substance éternelle, divine, transcendante. Il y a là une distinction incontestable entre ceux que l'on appelle les matérialistes, les nihilistes, qui croient uniquement dans leur moi personnel, et qui croient qu'au moment de la mort, de toute façon, tout disparaît, corps et âme. Et puis il y a la vue des éternalistes, des spirituels, enfin, ceux qui croient qu'ils le sont souvent. Les éternalistes qui, eux, croient que, pas du tout, il y a une substance qui est éternelle, immuable, qui existe depuis l'éternité et qui continuera d'exister pour l'éternité. Il y a là une distinction de vue, mais pas de différence de vue. Parce que c'est la même vue au départ, qui est Sakaya Deity. La conviction que il y a dans ce corps, ou dans ce mental, dans ces agrégats, qui constitue le corps et le mental, une chose immuable. Que ce soit éternellement immuable ou momentanément immuable, une chose immuable qui existe en soi. Cet obstacle est de loin le plus subtil, le plus délicat à éliminer pour nous. La seule et unique chose qui permet d'y arriver est l'établissement de la vision directe dans la vérité, dans la réalité, pardon, vipassana. Pour s'établir dans la vertu, paradoxalement, il n'y a pratiquement rien à faire. Et pourtant, c'est déjà tout un programme. Pour développer la concentration, il y a quelque chose à faire. Et c'est aussi tout un programme. Pour développer la vision directe dans la réalité, la lucidité, la vision plutôt, eh bien c'est un petit peu en même temps, il n'y a rien à faire, et un petit peu en même temps, il y a quand même quelque chose à faire. C'est très particulier et très subtil. Et c'est ce que nous allons essayer de développer pendant ces quelques jours de retraite. Alors, les entraînements à la vertu et à la concentration offrent l'avantage que il suffit d'avoir pris les préceptes et de se dire, bon, à partir de maintenant, je fais attention à développer des attitudes vertueuses, c'est-à-dire de ne plus avoir d'actes et de paroles néfastes. Il faut bien commencer. Et ça n'a pas tellement d'importance que l'on ait commencé il y a une minute ou que l'on ait commencé il y a un an. Si ce n'est que, si ça fait déjà longtemps qu'on fait ça, c'est d'autant plus facile. Mais dès lors qu'on a commencé, c'est bon, on part à zéro. Le tableau est blanc. Quoi que l'on ait écrit sur un tableau pendant des années et des années, lorsqu'on l'a effacé, il est blanc. On part à zéro. Dès l'instant que l'on se dit, à partir de maintenant, je vais respecter ces cinq préceptes. C'est bon. On est propre. On est arrivé à la pureté de la conduite. Aucune importance si la veille on a tué quelqu'un. Ça, c'est important. Pour ce qui est du développement de la concentration, c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas simplement de se dire, bon, à partir de maintenant, je développe la concentration, je développe l'attention, je développe les qualités inhérentes à cela, la compassion, l'équanimité. Parce que là, on a beau se le dire, ça marche pas. Il y a un certain travail à accomplir. Mais ce travail, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'est pas nécessairement un travail de longue haleine, difficile, qu'il faudrait entreprendre pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. c'est assez rapide. Ça peut être assez rapide. Et puis, il y a s'établir dans la vision directe, voir directement ce qui se passe. Alors ça, par contre, on peut le faire dès qu'on y pense. Seulement, bien sûr, on n'aura pas beaucoup de succès. On n'aura pas beaucoup de succès par manque d'habitude, par manque d'entraînement et par manque de concentration. Donc, il faut développer ça pendant quelques jours. La concentration va se développer en même temps. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de commencer par 2 ou 3 jours de méditation sur la respiration ou de pratique de la concentration. Avec la vision directe, on peut attaquer directement l'observation dans la réalité. Comme le disait Bouddha lui-même, s'étant établi dans la vertu, il observe l'apparition et la dissolution des phénomènes. Directement. Un jour, quelqu'un vient voir Bouddha et lui dit « Je voudrais que tu m'expliques quelle est la voie que tu enseignes pour amener les êtres à l'éveil, pour amener les êtres à la fin de la souffrance. » Et il lui répond « Je n'ai pas le temps de te répondre parce que je dois aller maintenant chercher ma nourriture dans le village. » C'était le matin. Mais il insiste et demande à nouveau, puis à nouveau une troisième fois, face au refus de Bouddha, qui lui dit « Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je vais te répondre succinctement, alors écoute bien. » Et là, Bouddha a délivré l'une des phrases clés, l'une des phrases les plus importantes et paradoxalement les plus négligées de son enseignement. Parce que en 6 phrases, il donne la réponse à la question. Il lui dit « Lorsqu'il y a un son, ne fais que l'entendre. Lorsqu'il y a une image, ne fais que la voir. Lorsqu'il y a une odeur, ne fais que la sentir. Lorsqu'il y a une saveur, ne fais que la goûter. Lorsqu'il y a une tactation, ne fais que la toucher. Et lorsqu'il y a une idée, ne fais que la penser. Rien d'autre. » Puis il passe son chemin. Après quelques jours ou quelques semaines d'entraînement à la vision directe dans la réalité, l'interlocuteur en question, la personne en question, est arrivé à l'éveil complet. Est arrivé à la libération complète, qui est ce à quoi est arrivé le Sammasambuddho, l'éveillé Gautama. Parce qu'il n'y a pas 2 éveils différents, il n'y a pas un éveil pour lui et un éveil pour nous. Puisque l'éveil, c'est la fin de la souffrance. Ainsi, la vision directe dans la réalité, l'entraînement à la vision directe par l'établissement de la présence d'esprit, par l'établissement de l'attention, consiste simplement à observer. C'est incroyable, ça. Lorsque nous observons, nous ne faisons rien. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à observer. Et pourtant, nous faisons bien quelque chose. Il ne s'agit pas de laisser passer, de laisser être. Parce que si nous faisons ça, nous n'observons pas. Il y a un certain travail. Ce travail consiste à porter notre attention. Et porter notre attention, c'est ne rien faire, c'est ne pas intervenir. C'est assez paradoxal. C'est à la fois faire et à la fois ne pas faire. Il est inconcevable d'arriver à développer cette conscience particulière que l'on appelle la conscience, que l'on appelle la sagesse, si on n'a pas au préalable développé la base, le pilier qui est la vertu. Et il est impossible que cette conscience se développe, qu'elle mûrisse, qu'elle s'approfondisse, si elle n'est pas accompagnée de concentration. C'est pour ça qu'au début, bien entendu, cette conscience n'apparaît pas. Dans les premières heures, dans les premiers jours, elle n'apparaît pas. Il faut attendre des jours, voire des semaines d'entraînement pour que, à quelques occasions dans la journée, on ait expérimenté cette conscience. Lorsque l'on observe un son, une vision, une sensation, il y a simplement la sensation et l'observation de la sensation. Il n'y a personne qui s'implique dans le phénomène, dans le processus. À ce moment-là, lorsque vraiment nous avons réussi à développer cela, nous avons éliminé le 3e obstacle, momentanément. Nous avons éliminé le bœuf. Parce que lorsqu'il y a un son, le son c'est une masse d'air qui frappe le tympan. Qui frappe le tympan, bien sûr, de quelqu'un qui est vivant, pas d'un cadavre. À ce moment-là, il y a une conscience auditive qui apparaît. Pas la peine de tergiverser, tout le monde sait ce que c'est. Et même si on ne sait pas ce que c'est, en tout cas tout le monde a vécu, tout le monde voit de quoi nous parlons. Un son, une audition. À part, bien entendu, si on est sourd. Mais ce qui est valable pour le son est valable pour la vision, est valable pour les goûts, pour les toucher. Il y a un truc qui apparaît. Et on en est conscient. Si à ce moment-là, on porte son attention dessus, on observe simplement ce qui se passe. Par exemple, dans le cas du son, on observe seulement l'entendre. Et rien d'autre que cela. À ce moment, juste pendant ce court moment de présence, eh bien nous avons par définition une attitude corporelle qui est parfaite, absolument pas agressive. Par définition, nous ne sommes pas en train de tuer, de voler, de mentir, puisque nous sommes immobiles. Nous avons une parole qui est juste, qui est saine, puisque tout simplement nous n'en avons pas. Nous avons un moyen de vivre, un moyen d'existence qui est juste, puisque momentanément, nous ne sommes pas en train d'exercer des professions malsaines, dangereuses, des trafics en tout genre. Nous avons la concentration qui s'installe, car cela nécessite de la concentration. Lorsque nous portons notre attention sur un son, il faut rester dessus. Il faut soutenir cette attention, le temps que dure le son. Ce soutien, c'est la concentration, c'est le développement de la concentration, la fameuse, qu'il nous faut. Et de ce fait, pendant cet instant-là, il n'y a pas de désir qui peut s'installer. Il n'y a pas de passion qui peut s'installer, parce que l'esprit est attentif et concentré. Il ne peut pas être à la fois enraciné dans la concentration, dans l'attention, et à la fois enraciné dans la haine, dans la jalousie ou dans le désir. En fait, Vipassana, ce qui est paradoxal, c'est que ça neutralise tout. Ça neutralise tout en même temps. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'au moment où nous observons simplement ce qui se passe, il n'y a rien d'autre. La conscience n'est pas enracinée dans les vues ou dans les conceptions. C'est ni Dieu, ni Bouddha, ni Allah, ni son absence. C'est ni ceci, ni cela, c'est ni moi, ni un autre. C'est ni un homme, ni une femme. Seulement entendre. Et si on réfléchit une minute, puisque nous en avons l'occasion, après tout, qu'y a-t-il d'autre dans nos vies, dans la vie d'un être, que ces six classes d'objets? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers tout entier que ces six classes d'objets? Qu'y a-t-il d'autre que les sons, les visions, les odeurs, les goûts, les touchés et les objets mentaux, les pensées, les émotions, les angoisses, etc., etc. Rien du tout. Rien du tout. Mais les pensées construisent, les pensées élaborent, les pensées imaginent, elles inventent. Elles trouvent des explications, elles cherchent à se justifier. Et pourtant, il n'y a rien d'autre que des sons, des visions, des odeurs, des goûts, des tactations et des objets mentaux. Voir ce qui se passe, c'est observer ce qui se passe. C'est observer ces six objets, ces six classes d'objets. Et rien d'autre. C'est-à-dire ne rien faire, ne pas interférer, mais en même temps, faire quelque chose tout de même. Parce que ça nécessite un certain effort, que l'on appelle l'effort juste. Ça nécessite une certaine énergie, un certain travail, une certaine mobilisation, une certaine concentration, une certaine attention. Et cela nous amène à la vue juste. La vue juste, c'est l'absence de vue, tout simplement. Ceci, c'est le chemin octuple, le fameux chemin octuple. C'est là qu'il se trouve, le chemin octuple, et nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans nos études philosophiques, ce n'est pas dans nos livres, ce n'est pas parce qu'on se dit « je pratique les 8 embranchements du chemin » qu'on est dans le chemin octuple. Le seul et unique moment dans la vie d'un être où il est dans le chemin octuple, c'est juste à ce moment-là, où rien ne se passe, où rien ne se dit, où rien ne se construit, où rien ne se détruit, de connaissance. Un moment de connaissance dans la réalité. Enfin, là, tous les éléments du chemin octuple sont réunis. En dehors de cela, ils sont fabriqués. Ou tronqués. Ou amputés. Ainsi, quelqu'un vient une fois demander à Bouddha où se trouve la souffrance. Et il lui répondit, lorsque un son, en fait il emploie le mot une base externe auditive, rencontre la base interne auditive, c'est-à-dire l'oreille, le tympan, l'oreille, tout l'organe, et que bien sûr il s'agit d'un être conscient, la rencontre de ces trois établit un contact. Il y a le son, il y a l'oreille, et il y a le contact, pardon. Au moment du contact, il y a trois éléments, le son, l'oreille et ce qu'on appelle le contact, entre les deux. La rencontre, la réunion de ces trois choses et l'apparition de la conscience auditive, eh bien c'est là que se trouve la misère, la souffrance, la peine. C'est là que se trouve l'apparition, la formation de la misère, de la souffrance et de la peine. C'est là que se trouve la cessation de la misère, de la peine. Et c'est là que se trouve la voie qui mène à la cessation de la souffrance. La voie qui mène à la cessation de la souffrance se trouve dans le percept auditif. Pas dans les prières, pas dans les livres, pas dans la méditation, pas dans le recueillement, pas dans la joie, pas dans la tristesse, pas dans la vie, pas dans la mort, pas dans Dieu, pas dans Bouddha, dans l'audition. C'est incroyable quand même. C'est incroyable que, alors que nous passons notre temps à aller chercher quelque chose qui va nous transporter, yana, le véhicule, mahayana, hinayana, tantrayana, là où se trouve la voie, magga, qui mène à la fin de la souffrance, c'est là. Juste là. Il y a un son. Seulement le problème, c'est qu'on a raté le train. Et pourtant, c'est là que se trouve la voie qui mène à la libération. Dans le son, dans l'audition, dans ces objets qui entrent dans nos vies, pour dire comme ça, par l'intermédiaire des portes, leurs portes d'accès, par l'intermédiaire des fenêtres que nous avons laissées ouvertes. Il y en a 6. Une fois quelqu'un demande à Bouddha, tu parles du monde, de la formation du monde, de la cessation du monde, et de la voie qui mène à la cessation du monde, littéralement du lieu, loka en pali, que l'on retrouve dans le mot français, localité, loka, qui signifie le lieu. Mais où se trouve cela? Et il lui répond presque à l'identique, l'une de ses phrases favorites, lorsqu'il y a un son qui rencontre l'oreille, et qu'il y a quelqu'un de conscient, un être conscient, à ce moment-là, est établi un contact. La rencontre de ces trois explique l'apparition de la conscience auditive. C'est là que se trouve le monde, c'est là que se trouve la formation du monde, c'est là que se trouve la cessation du monde, et c'est là que se trouve la voie qui mène à la cessation du lieu, à la cessation de l'oka. C'est là que se trouve et c'est aussi là que se trouve la souffrance, la peine. C'est pas dans les uns ou les autres, dans telle communauté ethnique ou religieuse, ça n'est pas dans telle politique, ça n'est pas dans telle pratique, dans telle chose, ça n'est pas sur telle planète, ça n'est pas dans telle substance, dans tel médicament, ça n'est pas dans tel poison. C'est simplement là que tout se passe. Et c'est là que nous allons travailler. C'est là que tout va se faire. Puisque c'est ça. C'est ce que Bouddha dit, c'est ce qu'il a fait. Et à sa suite, ses disciples l'ont fait. Et aujourd'hui encore, nous avons la chance inouïe. Quand on y réfléchit, des fois on se dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Que cet enseignement soit encore intact aujourd'hui, qu'il soit encore là. Nous avons la chance inouïe parce que quelques personnes, très peu nombreuses, qui vivent en Birmanie, ont fait cette expérience de ces quatre choses, de ces quatre faits. On parle souvent de vérité, on dit souvent les quatre vérités. Le mot employé par Bouddha, cependant, est le mot satcha, qui signifie le fait, pas la vérité. Parce que ce sont des faits, parce qu'il est un fait que c'est ça, que le monde est cela. Que le monde est là, qu'il y a certainement une cause à son apparition, et que parce qu'il est là, il doit y avoir la cessation de ce monde, et que s'il y a la cessation du monde, il doit y avoir une voie qui mène à la cessation. Ainsi, Bouddha dit, c'est parce qu'il y a la peine, la souffrance, qu'il doit y avoir la voie qui mène à la fin de la souffrance. Parce que s'il n'y avait pas de voie qui mène à la fin de la souffrance, alors il n'y aurait tout simplement pas de libération de la souffrance, en toute logique. Nous pouvons prendre l'exemple aussi, par exemple, de la lumière. La lumière, elle peut en exister une multitude de couleurs différentes, d'intensités différentes, de types différents. Lumière de la bougie, lumière de l'ampoule, lumière du tube néon. Mais lorsque la lumière est éteinte, il n'existe qu'une seule extinction de la lumière. Et l'extinction de la lumière n'est pas une chose. C'est son absence. Ce n'est pas un truc qu'on peut toucher à l'extinction de la lumière. C'est quand il n'y a plus de lumière. Ainsi, il y a ceux qui croient que la fin de la souffrance est la divinité éternelle, la conscience qui demeure éternellement dans la joie. C'est quelque chose pour eux. Toutes les religions sont unanimes sur ce point. Pour nous, la fin de la souffrance, c'est son absence tout simplement. Ça n'est pas son remplacement. C'est simplement son absence. Lorsque, momentanément, nous avons la capacité de connaître simplement un son, lorsque nous percevons un son, l'entendre, nous observons l'entendre et rien de plus, à ce moment-là, juste à ce moment-là, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance parce qu'il n'y a pas d'absence de vertu, d'agressivité, de haine. Il n'y a pas de souffrance parce qu'il n'y a pas de désir, de fascination. Il n'y a pas de souffrance parce qu'il n'y a pas de croyance, de vue, d'interprétation. Chaque moment, dans l'entraînement, à Vipassana, moment par moment, comme il le disait lui-même, kané kané, petit à petit, parce que, disait Bouddha, ce sont les petites gouttes qui finissent par remplir les vases, moment par moment, nous arrivons à nous établir dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la lucidité, dans l'absence de souffrance. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de misère. Et s'il y a une douleur physique, nous portons notre attention sur la douleur physique et nous connaissons simplement la douleur. Cette douleur n'est plus une souffrance. C'est juste une sensation douloureuse. Nous nous sommes momentanément libérés de la souffrance. C'est incroyable. Il n'y avait que ça à faire. Ainsi, nous allons essayer, pendant ces quelques jours de retraite, d'expérimenter une chose que très peu d'entre nous ont expérimentée, de libérer de la souffrance. Ne serait-ce que quelques instants, bien sûr, de courts moments. Voilà.